Il est une profession souvent bien méconnue, c'est celle des inventeurs. Ce sont pourtant à eux que nous devons toute notre modernité, et sans leur précieuse contribution, nous en serions encore à rôtir des cuisses de mammouth au fond d'une grotte mal ventilée. Cette semaine, nous réparons cette injustice en brossant le portrait de certains d'entre eux qui, dès l'invention de l'électricité, se dévouèrent à la faire chanter. Les hommes dont nous allons parcourir la vie viennent de Saint-Pétersbourg, New York, Ottawa, Paris ou Osaka, et tous, au cours du siècle dernier, ont voué leur existence à marier la musique à l'électricité avec leurs instruments visionnaires et une obstination qui n'appartient qu'aux fous du son.
La série musicale, Laurent de Wild, Les fous du son.
Aujourd'hui, Amonde, l'horloger du siècle. Laurence Amonde voit le jour en 1895. Il est donc un tout petit peu plus vieux que Thérémine et Marteneau évoqués hier. Avec trois sœurs au-dessus de lui, le jeune Laurence est le dernier de la fratrie. Sa famille s'est installée à Evanston, dans le Michigan, et son père a gravi rapidement les échelons de la First National Bank of Illinois. Trop rapidement peut-être, puisqu'il est accusé en 1897 de délit d'initié. Le scandale est trop fort pour lui et il se donne la mort en se jetant dans le lac avoisinant. Ce drame va bouleverser la vie du tout jeune Laurence, qui n'a alors que 2 ans. Car sa mère, une femme exceptionnelle, dotée d'une grande sensibilité artistique, chevillée à un solide sens pratique, décide de quitter l'Amérique et d'aller tenter sa chance en Europe avec sa famille, en route pour l'aventure. Les Amondes débarquent sur le vieux continent en 1899 et y resteront 10 ans, d'abord à Genève, puis à Dresde et enfin à Paris. L'atmosphère culturelle qui règne dans la capitale au début du siècle est un émerveillement pour la famille qui s'y plaît beaucoup. Les Amonde logent en face du jardin du Luxembourg et le jeune Laurence, qui est trilingue à 8 ans, étudie à l'école alsacienne. Il y apprend le grec, le latin, les maths, mais c'est un élève considéré comme médiocre. En revanche, c'est un infatigable bricoleur. Les tout nouveaux développements de l'électricité, de la chimie ou de la mécanique le passionnent littéralement et il est tout le temps à griffonner des plans, visser des pièces ou tenter quelques fumeuses expériences. Il va même imaginer un système de boîte de vitesse automatique pour les premières automobiles. Sans hésiter, accompagné de sa mère, il se rend aux usines Panhard-Levasseur et demande à parler au chef mécanicien, à qui il exhibe fièrement les plans de son invention. Stupéfait par la qualité du travail dessiné, le mécano le prend à part et lui dit « Petit, ton plan il est génial, mais il peut pas marcher. Théoriquement, c'est bon, mais en pratique, aucun acier n'est suffisamment solide pour supporter des tensions aussi fortes. Reviens nous voir dans quelques années, je suis sûr qu'on aura du boulot pour toi. » Ballotté entre fierté et déception, Laurence ressort de l'atelier avec le sentiment que son avenir appartient aux choses qui s'emboîtent et que ce n'est que le premier pas d'une longue et joyeuse marche. Mais nous sommes en 1909 et l'Europe, elle, s'achemine lentement mais sûrement vers la guerre. Madame Amonde, qui a le nez fin, décide qu'il est temps de rentrer aux États-Unis. Retour donc dans le Michigan où Lawrence, jeune adolescent, retrouve son Evanston natal inchangé, habité par des gens qui n'ont pas beaucoup changé non plus. Après une période d'adaptation un peu difficile, il met le couvercle sur l'évidente maturité qui le distingue de ses camarades. Il devient un élève américain chahuteur et populaire, et comme il n'est absolument pas doué pour les jeux de balle, c'est comme star du club de théâtre qu'il est élu délégué de classe en terminale. Et quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, il répond invariablement « inventeur ». Lancé dans la vraie vie, Hammond ne tarde pas à s'abandonner à sa passion et invente successivement une poudre de marbre mélangée à la peinture des radiateurs de voitures pour améliorer leur isolation thermique, puis un réveil silencieux qui lui aussi fait merveille, mais ce n'est pas encore ça. Comme beaucoup d'inventeurs, il est fasciné par le cinéma et il conçoit un système particulièrement sophistiqué pour voir des films en 3D avec des lunettes à clapets synchronisées aux appareils de projection. La mécanique est complexe et l'investissement est lourd. Le projet exige notamment le tournage d'un film d'une heure et demie avec les caméras appropriées sur un scénario d'aimable science-fiction écrit par ses soins. Intitulé « The Man from Mars », il est joué dans une salle de New York pendant une semaine, au terme de laquelle, au vu de son maigre succès, malgré l'évidente prouesse technique, il est définitivement retiré de l'affiche. Fin de l'aventure, le jeune homme a tout perdu. C'est son premier échec, qu'il rumine amèrement pendant plusieurs mois. Mais son inlassable naturel d'inventeur reprend le dessus. Et le voilà qui imagine, toujours selon le procédé de vision en 3D, un ingénieux système qu'il propose à Florence Ziegfeld, l'exubérant fondateur des Ziegfeld Follies. Cette fois-ci, on voit en 3D grâce à des lunettes au vert teinté, l'un de rouge et l'autre de bleu. Lorsque l'éclairage adéquat est projeté sur la scène, on y voit apparaître une énorme araignée qui semble fondre sur la foule terrifiée. L'effet est grandiose, Ziegfeld est enchanté, il achète. Ça y est, Hammond a trouvé quelque chose qui tient la route et son invention fera partie des attractions du théâtre pendant de longues années, lui rapportant à l'époque 75 000 $, l'équivalent d'un million aujourd'hui. C'est officiel, il est désormais inventeur et il gagne sa vie avec ses idées. Il goûte beaucoup le milieu du spectacle, où il est fort à son aise. Beau garçon, bon danseur, ingénieux et farceur, buveur solide, il devient vite un habitué des shows de Broadway, pour lesquels il propose souvent des solutions d'éclairage ou d'alimentation électrique qui font de lui une personnalité appréciée et choyée. Here's to the beautiful ladies, here's to those wonderful girls, Adele's and Molly's, Lucille's and Polly's, you find them all in the Ziegfeld Follies. Here's to the silks and the satins, here's to the diamonds and pearls. This is the mixture to start the picture, so bring on the beautiful girls. Fort de son succès, Hammond passe à la vitesse suivante. Il a remarqué qu'une très prometteuse idée, l'horloge électrique, comporte encore un défaut auquel il pense avoir trouvé la solution. Ce type d'horloge est très pratique. On la branche dans le mur, une fois pour toutes, sans qu'on ait jamais besoin de la remonter. Pour l'époque, c'est un miracle. Mais le problème du modèle existant est que lorsqu'il y a une coupure de courant, ce qui est fréquent, l'horloge s'arrête avec et ne repart que lorsqu'il est revenu. Du coup, l'heure n'est plus juste. Hammond invente donc un système mécanique qui prend le relais en cas de panne et conserve l'heure exacte, quoi qu'il arrive. Il brevette le système et lance son horloge électrique sur le marché. Mais depuis ses déconvenues avec le cinéma, il est devenu prudent. Et il apporte un grand soin à la commercialisation de son produit. Résultat, c'est un succès. Et rapidement, les horloges Hammond, au design élégant, envahissent les bâtiments publics. Il semble qu'il ait trouvé le bon filon. Enhardi, il développe son idée avec une invention lumineuse, une horloge qui indique non seulement l'heure, mais aussi le jour et la date. Le succès de ce nouveau modèle est tel qu'en cette fin des années 20, il n'est pas rare qu'à un mariage, les jeunes époux se voient offrir 6 ou 7 horloges à monde, tellement tout le monde trouve l'innovation géniale. Et quand arrive la crise de 29, l'usine à monde et ses 700 employés semblent suffisamment solides pour traverser les turbulences sans trop de dommages. Mais courant 1930, le bruit commence à courir que le brevet de Hammond n'est pas valable. Renseignement pris, c'est exact. Un brevet antérieur avec exactement le même moteur a été déposé, ironiquement, en 1895, l'année même de sa naissance, par un Allemand de Cologne qui en a doté le beffroi de son église. Le système a été abandonné depuis, mais le brevet existe et invalide de facto celui de Hammond. Les fabricants refusent désormais de payer les royalties exigées par la Hammond Clock Company, affectant gravement l'équilibre de ses comptes. Si Lawrence ne trouve pas rapidement quelque chose, il n'y a plus qu'à mettre la clé sur la porte. En décembre 1932, Hammond a une illumination. Pour les joueurs de bridge, il va fabriquer des tables à jouer qui distribuent automatiquement les cartes. Encore une fois, c'est le cas de le dire, c'est un carton. Et son invention fait fureur en cette période de fête. Mais passé l'hiver, les ventes déclinent et Lawrence comprend qu'il lui faut à nouveau imaginer quelque chose pour éviter la faillite. Et c'est alors qu'il se tourne vers le son. Il a suivi de loin les débuts d'électronique musicale et il sent qu'il y a moyen de trouver sa place dans cette bourgeonnante discipline. Il est temps pour lui de se documenter un peu sur le sujet. Il découvre alors que lorsqu'il gambadait gamin dans les jardins du Luxembourg, un homme nommé Thaddeus Cahill avait construit à New York un orgue tout à fait extraordinaire. Véritable pionnier de la synthèse sonore, Cahill avait imaginé un système fort astucieux pour produire du son avec de l'électricité. En faisant tourner une roue dentée devant un électroaimant, il était arrivé à générer un courant dont la fréquence dépendait de la vitesse de rotation de la roue et du nombre de ses dents. Cette fréquence électrique faisait alors vibrer une membrane résonante, exactement comme dans un téléphone, et permettait d'entendre la note ainsi produite. Mieux encore, il avait compris que pour que le son d'un orgue électrique soit plaisant en musique, il lui fallait en reconstituer artificiellement l'épaisseur grâce à une maîtrise accrue de ses harmoniques. Mais que sont donc ces harmoniques? Eh bien, ce sont toutes les notes dissimulées en dessous de celles qu'on entend clairement, un peu comme une forêt cachée derrière un arbre. Si par exemple, je produis un courant de 100 Hz, sa fréquence exprimera une note simple comme celle-ci. Cette note est à l'écoute sans attrait, mais si je lui ajoute discrètement une fréquence double de 200 Hz, j'obtiens ceci. Continuons d'empiler les multiples, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600, le septuple, 700, 800 et ainsi de suite. On entend bien que ces harmoniques, qui sont les multiples de la fréquence de base et dont on ne soupçonne pas forcément la présence, enrichissent considérablement le son exprimé. Ils sont présents dans toutes les notes jouées par un instrument de musique acoustique, que ce soit un violon, un piano ou une trompette. D'ailleurs, c'est leur présence et leur intensité respective qui déterminera ce qu'on appelle le timbre propre à chaque instrument. Voici donc la même phrase, jouée avec une répartition différente des harmoniques contenues dans le son. Tout cela avait été bien compris par Thaddeus Cail, mais son invention était malheureusement beaucoup trop en avance sur son temps. En 1906, date de sa première utilisation, l'électronique issue de la radio en était à ses tout débuts et l'amplification du signal n'existait pas encore. Résultat, son orgue futuriste, baptisé Telharmonium, était une machine monumentale dont les fameuses roues dentées faisaient parfois la taille d'un homme et dont le poids total dépassait 200 tonnes. En effet, imaginez qu'à une note sur le clavier correspondait 8 roues différentes pour exprimer ces harmoniques. Multipliez ce chiffre par le nombre de notes sur le clavier et vous obtenez un nombre absolument faramineux expliquant la taille gigantesque de l'instrument. Mais au temps de Hammond, tout a changé. Et sa connaissance intime des mécanismes d'horlogerie appliqués aux procédés d'amplification miniaturisée du signal lui permet de moderniser l'invention de Cail et d'en réduire la taille avec une aisance déconcertante. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable dans l'atelier de Hammond. C'est comme si son invention s'accouchait toute seule. Ou plutôt, comme si lui n'en était que l'accoucheur, l'accompagnant simplement dans l'impérieuse nécessité de sa naissance. Jusqu'à présent, nos inventeurs avaient quand même une petite idée de ce qu'ils cherchaient, mais là, c'est la première fois que l'on assiste au spectacle médusant de l'inventeur comme inventé par son invention. En venant renifler du côté de la musique pour voir s'il y avait un coup à faire, Hammond s'est tout simplement fait happer par le monde hypnotique des fous du son pour accoucher au premier essai, en moins d'un an, de l'instrument parfait. Comme sur un orgue d'église standard, son invention comporte deux claviers et un pédalier. Mais là où il bouleverse tout, c'est que la répartition des harmoniques dans le son initial est entièrement modulable. Je m'explique. Un organiste classique, lorsqu'il veut enrichir le son qu'il joue, a à sa disposition ce qu'on appelle des jeux, c'est-à-dire un certain nombre de timbres présélectionnés qu'il actionne comme des interrupteurs et les additionne les uns aux autres. Hammond, lui, a imaginé un système très simple de 8 tirettes qui permet de faire son mélange d'harmoniques soi-même. Autrement dit, et pardonnez-moi le jeu de mots, des timbres à la carte. Estimée à 200 millions de possibilités, la fabrication de ces timbres ouvre la voie royale aux bidouilleurs de sons dont les rangs, désormais, ne cesseront de grossir. En avril 1935, les premiers orgues à monde sortent de l'atelier et leur succès est foudroyant. En quelques semaines, le carnet de commandes est rempli pour l'année et le restera jusqu'aux années 70. le titan de l'automobile Henry Ford exige d'avoir le premier modèle et prédit à son inventeur une fortune infaillible. Ça y est, l'usine est sauvée et à 40 ans, Laurence Amonde a fini par toucher le jackpot. Il est intéressant de constater que, de tous les inventeurs évoqués cette semaine, Laurence Amonde est le seul qui n'ait eu qu'un intérêt limité pour la musique. À vrai dire, il n'aimait pas vraiment ça, et d'une façon générale, son sens artistique n'allait pas beaucoup plus loin que le design de ses horloges. C'était un homme pratique, concerné par le sort de ses employés, et soucieux d'entretenir au mieux le filon qu'il avait découvert presque par hasard. Ceci explique sans doute qu'il fut l'un des seuls de ce siècle à avoir fait fortune dans le domaine. Un chiffre officieux fait état de 7 millions d'instruments vendus, un record stupéfiant. Entrepreneur avant tout, il saura garder jusqu'au bout la tête froide et fera fructifier son affaire comme nul autre de ses contemporains, conforté par l'idée qu'il a, dès le début, atteint son objectif. Fabriquer un orgue électronique qui sonne comme un orgue d'église, pour un dixième du prix. Certains esprits grognons prétendirent à sa sortie que le Amonde n'était qu'une pâle copie de l'original et que le terme d'orgue était usurpé et trompeur. À trompeur, trompeur et demi. L'inventeur organise sur le champ un test à l'aveugle et propose à un jury de mélomanes avertis de faire la différence entre les deux instruments qui jouent tour à tour derrière un épais rideau. Les huissiers présents ce jour-là sont bien forcés de constater que, dans 3 cas sur 5, le jury se trompe. Un ratio suffisant pour conserver au nouvel instrument la noblesse de son nom.
Les fous du son. France Culture, la série musicale par Laurent De Wilde.
Loin de se reposer sur ses lauriers, Amonde continue donc ses recherches et décide de s'intéresser à une autre forme de synthèse du son que Thérémine et Marteneau avaient défrichée avant lui. Celle de l'utilisation des oscillateurs à lampe, comme pour la radio. Encore une fois, son intuition est la bonne, puisque c'est le chemin qu'empruntera toute la profession dans les 4 décennies qui suivront. Après un an de recherche, en 1939, il produit donc un instrument totalement ébouriffant. Car sur son clavier, on peut jouer plusieurs notes en même temps. Ça paraît trivial comme ça, mais il ne faut pas oublier que ni le Thérémine, ni les ondes Marteneau ne proposaient cette option. On ne pouvait jouer qu'une seule note à la fois. C'est un énorme verrou technique que Amonde fait sauter, et il faudra attendre de nombreuses années avant que l'exploit ne soit réédité. Il travaille également sur les attaques des notes, qu'il gradue de très brèves à très longues, et accouche ainsi d'un instrument historique. Il vient d'inventer le premier synthétiseur polyphonique. Et il l'appelle très logiquement le Novacord, dont voici une démonstration proposée par les disques Victor. Au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, 20 000 orgues sont sortis des usines Amonde et vendus dans 39 pays, dont les cathédrales de Mexico et de Canterbury. Les ennuis de la Hammond Clock Company ne sont plus qu'un lointain souvenir et c'est maintenant la Hammond Instrument Company qui mène la danse. Embarqués avec les troupes américaines dans le Pacifique, les orgues de l'inventeur, présents dans les chapelles des campements, sont classés secrets militaires et doivent être évacués en priorité en cas de retraite forcée. Néanmoins, les usines Amonde ont été réquisitionnées et aucun orgue n'en sortira pendant les 4 ans que dure le conflit. Après avoir contribué personnellement à l'effort de guerre en développement pour l'armée, un système de bombes téléguidées largué jusqu'alors à l'œil nu au prix de nombreuses morts inutiles, Amonde se remet au travail une fois le conflit terminé. Le Novacord, aussi révolutionnaire qu'il soit, n'a pas marché. Trop cher à fabriquer, trop fragile et finalement trop en avance sur son temps. La production s'est arrêtée au bout de 1000 exemplaires. Mais Amonde ne capitule pas, bien au contraire, et décide de s'attaquer cette fois au rêve ultime de tout inventeur, le mythique foyer américain. Un produit Amonde dans chaque maison, voilà l'objectif. Et pour cela, l'inventeur accouche d'une nouvelle trouvaille géniale. Il s'agit d'un petit clavier portatif qui s'accroche à celui du piano et permet de jouer des deux en même temps, apportant une touche d'électronique amusante et moderne aux joies de la musique à la maison. En fait, c'est absolument démoniaque comme idée, puisque le Solovox se présente non pas comme alternatif, mais complémentaire à un instrument acoustique. Le fait qu'il fût fabriqué pendant 10 ans jusqu'en 1950 atteste du succès de cette intrusion synthétique dans les foyers américains, présageant celle encore plus massive des orgues de tout modèle. Pour s'en faire une idée, en voici une démonstration. Mmh. Fort de son succès, Hammond persiste et signe avec un nouveau et brillant concept, l'orgue pour les nuls. Il s'agit d'un instrument à clavier que on joue de la main droite, tandis qu'à la main gauche, une série de boutons produit comme sur un accordéon des accords tout faits. Avec un an de solfège et un peu de goût pour la musique, on est le roi de la chanson 5 minutes après l'avoir branché. Dénommé le corps d'organe, cet instrument ouvre une nouvelle ère qui perdure encore aujourd'hui, le clavier qui fait tout pour vous en même temps. Mais Hammond ne se désintéresse pas de son orgue traditionnel et continue de lui apporter des modifications destinées à séduire un public de plus en plus vaste. Constatant que le son initial de l'orgue manque généralement d'attaque quand on le joue, ce qui est normal puisqu'il est censé reproduire le son d'un orgue d'église, l'inventeur décide d'y ajouter une option d'attaque qui le rend plus percussif, histoire de voir ce que ça donne. Le résultat excède rapidement ses espérances et le modèle B3 qui sort de ses usines en 1955 sera le fleuron de sa production. Pour les jazzmen qui évoluent dans un monde infiniment plus rythmique que la musique d'église, cette innovation est un cadeau du ciel et ils s'en emparent goulûment. Jugez-en vous-même. Voici la même note sans puis avec l'option percussion. On comprend maintenant pourquoi les musiciens de jazz en tombent amoureux et ne tardent pas à imposer le B3 dans l'instrumentarium obligatoire des années 50. Des églises au théâtre, puis aux maisons individuelles, l'orgue Hammond est en train de conquérir le dernier domaine qui lui manquait, celui de la scène et des studios d'enregistrement. L'un des plus brillants musiciens à s'être approprié ce nouvel instrument est sans doute Jimmy Smith. Voici un exemple de son irrépressible talent.
Thank you.
Le son du Hammond B3 devient donc un classique. Et nombreux sont les fabricants qui tentent d'en imiter le son avec plus ou moins de succès. Cependant, parmi la foule d'inventeurs qui se pressent autour de cette nouvelle icône, il en est un qui réussira à accrocher durablement son nom à celui de Hammond. Il s'agit de Don Leslie. Peu satisfait de la qualité des haut-parleurs fournis avec l'orgue, cet ingénieur radio a réussi à créer un mode de diffusion tout à fait spectaculaire. Posés l'un sur l'autre, deux speakers tournent autour d'un axe et diffusent ainsi le son produit à 360 degrés. Le résultat est saisissant, c'est comme d'être dans un bain chaud de son, traversé par des courants mouvants multicolores. L'extrait que vous allez entendre fait apparaître et disparaître l'effet de la cabine Leslie tournant à différentes vitesses, une bonne occasion d'entraîner notre oreille. Don Leslie avait, dès les années 40, approché Hammond pour lui proposer ce nouveau système de diffusion, mais ce dernier lui avait répondu très sèchement que son système à lui était bien meilleur et qu'il ne voyait pas d'utilité à déformer ainsi le son de son instrument. On le comprend, son orgueil d'ingénieur était d'avoir inventé un instrument électronique qui reproduisait à la perfection le son d'un orgue d'église. Et le procédé de Leslie était ni plus ni moins qu'une perversion de son idée originale. Moyennant quoi, les fameuses cabines Leslie, malgré l'opposition farouche de Hammond, demeurèrent l'accessoire favori des nombreux fans de ce clavier et qui, performance remarquable, s'écoula dans le monde à plus de 500 000 exemplaires. Pour les mêmes raisons, Hammond ne goûtait pas beaucoup non plus les triturages outrés que les jazzmen faisaient subir à l'objet de sa fierté. Il est heureux que l'inventeur se soit retiré des affaires à ce moment-là, car ce n'était que le début de la grande aventure de l'orgue Hammond dans le rock, la pop et le rhythm and blues. Je pense même que son cœur n'aurait pas résisté à voir en concert le keyboardiste Keith Emerson du fameux groupe ELP, plongé dans les entrailles de son invention un couteau de chasse pour en tirer des cris et des hurlements très à la mode. Mais quelques années avant, Jimi Hendrix ne jouait-il pas de la guitare avec les dents avant de l'asperger d'essence et y mettre le feu ? Un nouveau monde est en train de voir le jour et Amonde ne veut pas en faire partie. Cependant, c'est lui, plus que tout autre, qui en aura posé les bases en inventant non seulement un marché pour les instruments électroniques, mais également les procédés techniques qui permettront à l'ingénierie musicale d'exploser à la fin des années 60. Génie visionnaire, doublé d'un chef d'entreprise affûté, nous lui devons sans aucun doute l'infinie multiplicité des sons d'aujourd'hui.
Yeah, yeah. Stay on there for a while, baby.
Alors, je me tourne vers vous, Emmanuel Bex. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes amondiste et l'une de nos fiertés nationales à l'instrument. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler des joies et des peines de l'orgamonde. Mais tout d'abord, qu'est-ce que nous entendons en ce moment ?
C'est un enregistrement que je devais réaliser seul. Quelque chose qui devait terminer un disque. Et j'avais dit à Maurice Culas, d'aucuns s'en souviennent, un grand critique, homme de jazz.
Et fondateur de l'Académie du Jazz.
Du jazz, bien sûr, oui, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années. Et Maurice, je lui avais demandé de passer au studio, mais pour tout à fait autre chose. Et je lui avais dit, écoute Maurice, ne bouge pas de ta chaise, je vais enregistrer quelque chose. Maurice, peut-être très âgé ou peut-être après la petite fumette, vaporette, je ne sais pas. Enfin, tout d'un coup, c'est mis à parler pendant que j'enregistrais. Et j'ai trouvé que c'était... Il y avait quelque chose justement à propos de l'orgue qui me paraissait juste. C'est-à-dire que pour moi, l'orgue, ça doit être... au fond de moi, je pense que c'est un instrument qui doit être relié. C'est l'idée de la mystique, etc.
Alors relié à quoi ?
Eh ben, par exemple, relié à ce grand personnage qui était Maurice. Mais Maurice lui-même était relié à cette grande histoire qui était le jazz, et le jazz est lui-même relié à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et il me semblait qu'il y avait comme ça un jeu de perspective qui tombait pile, d'autant que je l'avais pas prévu. Et bien sûr, je l'ai laissé sur le disque.
Mais oui, c'est une piste magnifique. Alors, je voulais vous demander, vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu un orgamonde ?
Oh oui, très bien. Heureusement, en France, on a d'immenses musiciens de jazz en particulier. Et je faisais partie de la compagnie Luba. C'est la compagnie de Bernard Luba. Nous étions venus jouer à Paris. Je me souviens très bien, c'était dans un restaurant, le Beaufinger, il y avait une scène, voilà. Et puis, au début de la soirée, Bernard nous dit « Ah ben j'ai un camarade musicien, un copain, qui va venir jouer avec nous ». Et ce copain, c'était un immense musicien, c'était Eddie Lewis. Mais je ne le connaissais pas, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un orgamon. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est de rencontrer l'orgue comme quelque chose de concret. C'est-à-dire que j'encourage vraiment à vivre l'orgue comme... à mettre ses doigts dessus, à le... il y a quelque chose de bestial et d'organique qui ne peut pas être traduit par l'écoute, simplement d'un disque. Et Eddie Lewis a sorti son orgue, il s'est mis à jouer quelques notes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, Mais qu'est-ce que c'est? Alors évidemment. Et puis de là, Eddie m'a dit, écoute, moi j'en ai acheté un, je vois quoi là-bas, puis ça a commencé, voilà.
Alors vous êtes pianiste également de formation. C'est quoi la différence avec le Hammond?
La différence, c'est il y a quelque chose. Le piano est un instrument, je dirais, universel. C'est-à-dire qu'on peut jouer du Jean-Sébastien Bach, on peut jouer du Stockhausen, on peut même jouer du jazz, très bien.
Ça, c'est vu.
et l'orgue, il y a quelque chose de... Il est beaucoup plus indépendant, finalement, même si on a vu que dans le cadre des musiques actuelles, l'orgue traverse... Le rock, le blues et le jazz, bien sûr. L'orgue n'est pas du tout un instrument adapté pour faire de la musique classique, même si on a entendu tout à l'heure un petit extrait, même si Laurence Hammond considérait que c'était l'aboutissement de son instrument, je crois qu'il avait... Il n'avait pas compris, en fait.
Oui, hélas, il n'avait pas compris sa propre invention. Ce qui arrive souvent dans nos histoires d'inventeurs, d'ailleurs.
Et au fond, l'orgue, il y a quelque chose... qui est beaucoup plus de la voix de l'instrument avant, finalement, quand on joue. Alors, quelquefois, quand je suis dans un état d'excitation, je me dis, il faut que j'arrive à sonner comme une cornemuse. C'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire, l'idée, c'est-à-dire que c'est le son pur, la matière pure, mais il faut être dans une certaine petite folie, hein, pour voilà.
Quand je suis dans d'hypnose musicale,
voilà, quand je suis dans un état normal, j'ai simplement envie soit de murmurer, soit de crier, tout simplement de chanter, en fait.
Alors, petite question technique, comment on démarre un Hammond?
Aujourd'hui, c'est relativement facile parce que il y en a un certain nombre sur le marché. Vous avez rappelé que Hammond en a vendu beaucoup, ça a été un grand succès commercial. Donc, il existe encore beaucoup de B3, de C3, de Vincent, de ces modèles particuliers, hein, que vous avez évoqués tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, pour les jeunes musiciens, accès à ce qu'on appelle des clones, c'est-à-dire des imitations numériques. Qui pour des gens qui débutent font très bien l'affaire pour un poids bien moindre et un prix bien moindre aussi. C'était pas le cas quand Eddie m'a sorti sa machine magique. C'était pas le cas parce qu'à ce moment-là, c'était le début des années 80. C'était la disparition complète de l'orgue. Personne n'en jouait plus. Il y avait eu, dans les années 70, Emerson, etc. Dans les années 80, je crois que c'était fini.
De toute façon, je passais de mode. Oui.
Oui, mais le jazz en général était passé à autre chose. Et puis, grâce à des gens comme Eddie Lewis, comme d'autres musiciens américains, etc., etc., les choses ont repris leur cours parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire avec cet instrument. Bien sûr.
Mais alors, je me suis laissé dire que il y avait un réservoir d'huile dedans. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Alors, on peut s'amuser à en mettre de temps en temps. Mais point trop n'en faut, parce que quelques gouttes c'est de la vaseline extra pure. Quelques gouttes suffisent pour plusieurs années, donc il n'y a pas de souci. Ce qui prouve bien que ce concepteur, Laurence Hammond, était un point de vue technique irréprochable. Parce que, par exemple, le mien, il est de 59, c'est-à-dire, si je me souviens bien, c'est l'année de ma naissance. Moi, j'ai l'impression de tourner encore bien rond, mais l'orgue tourne bien rond aussi. Il n'y a pas une faille, il n'y a rien, il ne se passe rien. On change ce qu'on appelle une lampe dans le préampli tous les 15 ans, et puis voilà, il n'y a pas de souci.
Et quand ça casse, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a un réparateur ou deux, en France en particulier, c'est ceux que je connais le mieux. Mais ça casse pratiquement pas. Vraiment, ça casse pratiquement pas. Si on met ces fameuses gouttes d'huile, si on change un peu les lampes, c'est un instrument qui avait été tropicalisé, c'est-à-dire il y avait des normes dans les années 50 pour que les instruments puissent être vendus dans les pays exotiques, etc. Il fallait qu'on s'assure qu'ils tiennent le coup, et j'avais entendu dire que Laurent Samon avait tropicalisé ses orgues.
Donc vous avez une version tropicale. C'est magnifique. Alors Emmanuel Bex, vous nous avez amené un morceau d'un organiste que vous aimez particulièrement, c'est Larry Young. On va en entendre quelques mesures et reprendre notre passionnante conversation. Emmanuel Bex, vous connaissez le solo par cœur, visiblement. Alors pourquoi avoir choisi
ce... Je l'ai relevé, le solo. Il y a des moments, comme il ne joue pas du tout carré, il faut inventer des 17 olés ou des 19 olés.
Pour le transcrire en petite note de musique.
J'adore. Mais... Alors pourquoi ce choix? C'est parce que, bon, on l'a entendu hein, dans le cadre de votre émission au tout départ, l'orgue a été... Enfin, en tout cas, dans sa communication, dans sa publicité, on a visé plutôt le grand public américain, et on a pas mal organisé plutôt de la musique un peu flonflon, un peu. Et il y a quelque chose dans l'orgue, même avec le blues qui est. Alors évidemment, Jimmy Smith est un cas à part, mais il y a un souci, c'est qu'il y a des milliers de gens qui ont fait comme Jimmy Smith, en mille fois moins bien, et tout d'un coup, il y a quelque chose d'un petit peu lancinant, répétitif, ringard. Et l'orgue, dans l'esprit du grand public, l'orgue Hammond, il y a tout ce poids-là. Et je trouve que quand on écoute Larry Young, bah, il n'y a plus que l'essence de l'orgue, en fait. Il n'y a aucune disparité de son. Il ne change pas de son. Il joue toujours avec le même registre. Il n'y a pas d'effet Leslie, il n'y a rien. Il y a juste un génie à l'état pur, avec un son merveilleux. Et puis évidemment, là, il se trouve que c'est Elvin Jones, un accompagnateur génial aussi. Je pense qu'il y a, c'est une des clés de l'orgue Hammond, c'est ça. C'est la clé en noir et blanc, celle-là.
Comme c'est joliment dit. Alors, Laurent Samond serait-il avec nous aujourd'hui? Est-ce que vous auriez des améliorations à proposer à son instrument?
Aucune, non. Ou surtout pas. Vous savez que il a fermé, il a mis la clé sous la porte parce que justement il y avait des orgues électroniques japonais qui arrivaient sur le marché et qui eux proposaient des tas de choses. Je sais que son B3, le modèle B3, il n'a jamais voulu le modifier, et en fait c'est ce qui fait le succès de ce, ça devient une espèce de chose mythique. Surtout ne rien modifier. Ah si, une chose, c'est-à-dire exactement la même chose mais avec 60 kilos de moins.
On lui dira. Eh bien merci infiniment Emmanuel Bex d'être venu témoigner de votre amour pour cet instrument magnifique qu'est l'orgue à monde. Eh bien, il est temps, malheureusement, de nous quitter. Et non sans avoir précisé qu'à la prise de son, nous avions Edouard Rubinstein à la documentation musicale, Romain Couturier, et bien sûr, à la réalisation, Marie Placé. Enfin, à celles et ceux que le sujet intéresse et qui voudraient en approfondir la connaissance, je ne peux que recommander la lecture de mon ouvrage « Les fous du son », paru l'année dernière aux éditions Grasset. En attendant, je vous donne rendez-vous demain pour le troisième épisode de cette série avec les grands oubliés, Raymond Scott et Hugh Le Cain, en présence du splendide bidouilleur Selmar Angèle.